Leçon 3. La définition biblique du mariage. Objectif de la leçon. À la fin de cette leçon, les étudiants doivent être en mesure de 1. S'engager à respecter le plan et les desseins de Dieu pour le mariage. 2. S'engager à obéir personnellement aux principes de Dieu concernant le mariage chrétien. 3. Être équipé pour enseigner aux autres la notion de mariage chrétien. Robertson McQuilkin, A Promise Keeper. Le docteur Robertson McQuilkin a passé 12 ans au Japon en tant que missionnaire. Il est ensuite devenu président de l'université Columbia International University. Il était célèbre en tant qu'écrivain, conférencier et éducateur. Sa femme Muriel souffrait d'une maladie cérébrale qui affecte la capacité d'une personne à penser, à se souvenir et à communiquer. Lorsque cette maladie a évolué au point que Muriel avait besoin de soins constants, le docteur McQuilkin a démissionné de la présidence de cette université pour s'occuper de sa femme. Le docteur Robertson McQuilkin a déclaré qu'il tenait ainsi la promesse faite à elle lors de leur mariage. Il estimait que prendre soin de sa femme était plus important que de garder son poste de président de cette université. L'institution du mariage par Dieu. Dieu a institué le mariage entre le premier homme et la première femme qu'il a créée. Dieu a établi le mariage pour être exactement ce dont les êtres humains avaient besoin. Dieu a en fait instauré le mariage pour la nature humaine. Dans tous ses plans et toutes ses exigences, Dieu veut toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Deutéronome 6, 24. Dieu veut que son plan de mariage apporte à chaque époux le meilleur bien-être émotionnel, relationnel et spirituel. Dieu prévoit que, dans le mariage, un homme et une femme quittent leurs parents et s'unissent. Le mariage engage un homme et une femme dans une amitié et un partenariat plus fort et plus étroit que toute autre relation humaine. Le mariage n'est pas seulement un partenariat limité entre un homme et une femme. Leurs vies ont fusionné de sorte que, en quelque sorte, elles ne forment plus qu'une seule personne. Il n'est pas question d'un effacement de leur personnalité individuelle, mais d'une unité particulière. Le mariage chrétien. Le mariage chrétien est quelque chose de magnifique. Toutefois, les couples qui veulent vivre la beauté et goûter à la bonté du mariage chrétien doivent examiner l'enseignement des Saintes Écritures à ce sujet, puis chercher à le mettre en pratique. Un mariage heureux exige des efforts et des sacrifices. Le mariage chrétien a pour but la communion. Le livre de Genèse décrit l'institution du mariage par Dieu. Chaque partie de la description rend le mariage digne. L'Éternel Dieu dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Genèse 2, 18. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en communion, Dieu nous a créés pour être sociables. Dieu nous a créés pour communiquer avec les autres. Dieu nous a créés pour vivre en intimité et en communion avec les autres. Dieu a dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Dieu a pris une côte de l'homme et a créé une belle femme, une autre personne, également créée à l'image de Dieu, de valeur égale, mais de nature différente, qui a complété l'homme. Elle est présentée avec un honneur particulier à l'homme comme la dernière et la plus parfaite des œuvres du Créateur. Charles Ellicott, EDI, Ellicott's Commentary for English Readers. Note sur Genèse 2, 22. Le mariage doit être une union joyeuse. Quand Adam s'est écrié, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. » Genèse 2, 23. Il exprimait son respect et sa joie. Adam n'a pas dit « Enfin, une esclave. » Maintenant, j'ai quelqu'un pour faire ma lessive, préparer mon repas, me masser le dos et faire mes corvées. Que non, Adam m'a dit, enfin, une aide qui me complète. Le mariage doit être une union d'égal à égal. Une aide qui soit son vis-à-vis. Genèse 2, 18. Dieu a conçu la femme pour qu'elle corresponde parfaitement à l'homme et le complète. Matthew Henry nous rappelle que Dieu a créé la femme à partir d'une côte, du côté d'Adam. Elle n'a pas été créée à partir de sa tête pour le dominer, ni à partir de ses pieds pour être piétinée par lui. mais à partir de son côté, pour être son égal, sous son bras, pour être protégé, et près de son cœur, pour être aimé. Matthew Henry, Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible. Note sur Genèse 2, 21 à 25. La femme n'est ni inférieure ni supérieure à l'homme, mais c'est une union d'égal à égal. Le mariage doit être une union d'alliance. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Genèse 2, 24. Les mariages solides ne reposent pas sur les sentiments romantiques constants, d'ailleurs, les sentiments ne sont pas constants, ni sur le plaisir, bien que les mariages sains apportent de la joie, ni sur l'épanouissement personnel, bien que les mariages solides soient heureux. Les merveilleux avantages du mariage ne sont pas la cause d'un mariage solide, mais en sont le résultat. Le mariage est bâti sur le fondement inébranlable de l'alliance. Un homme et une femme exclusivement engagés l'un envers l'autre pour la vie. Le mariage doit être une relation caractérisée par la transparence, la confiance et l'acceptation. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, sans en éprouver aucune honte. Genèse 2, 25. Comme le péché n'avait pas encore corrompu l'innocence du premier couple, leur mariage était dénué de jugement, de honte et de crainte. Le Nouveau Testament le confirme. Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre. Hébreux 13, 4. Un mariage solide est une fiction lorsqu'il y a de l'insécurité, de la méfiance, de la suspicion ou de la peur. Lorsque les uns ne sont pas sûrs de l'engagement des autres dans le mariage. Les mariages solides exigent une promesse qui ne prend fin qu'à la mort de l'un des conjoints. Romains 7, 1 à 2. L'intention de Dieu est que le mariage soit une alliance à vie entre un homme et une femme. Matthieu 19, 3 à 6. Paul a déclaré que les chrétiens ne sont pas asservis lorsque leur conjoint incroyant se sépare d'eux, 1 Corinthiens 7, 15, mais qu'un chrétien ne doit pas chercher à se séparer d'un conjoint incroyant, 1 Corinthiens 7, 12 à 14, 16. Paul avait déjà indiqué que le Seigneur même avait dit la même chose. Les chrétiens ne doivent pas choisir de quitter leur conjoint ou de se séparer d'eux, mais s'ils le font, ils ne doivent pas épouser quelqu'un d'autre. 1 Corinthiens 7, 10 à 11, Matthieu 5, 31 à 32, Matthieu 19, 9. L'amour d'alliance est sacrificiel, respectueux et magnifique, même lorsque la relation est difficile. 1 Corinthiens 13. Un engagement faible produit des efforts timides, une déconnexion émotionnelle, un retrait et des tentations. Un mari vit l'amour de l'alliance lorsqu'il n'abandonne jamais son épouse, même lorsqu'elle est passive, qu'elle lui manque de respect ou qu'elle soit malade. Une femme vit l'amour de l'alliance lorsqu'elle choisit de respecter et d'obéir à son mari pour l'amour de Christ, même si son mari ne l'aime pas. Son amour gagne son respect, et son respect gagne son amour. Et ils continuent à grandir. Sujet de réflexion. Quels sont les problèmes qui se posent lorsque certains se marient en pensant qu'ils pourront revenir sur leur décision plus tard s'ils ne sont pas contents de leur mariage? Quelle différence l'engagement total fait-il lorsqu'une personne croit que son mariage est permanent? Le mariage chrétien est un lieu d'épanouissement sexuel et de procréation. Dieu a créé la sexualité pour qu'elle soit pleinement agréable et pour qu'elle revêt une puissance exceptionnelle. La sexualité est destinée à apporter l'unité physique, émotionnelle et spirituelle. Une vie sexuelle saine n'est pas seulement exaltante et porteuse d'unité, elle nourrit en outre la relation conjugale. Pour ceux qui veulent suivre l'éthique sexuelle chrétienne, la sexualité est un don de Dieu dont il faut profiter pleinement dans le cadre du mariage. Spiritual Health and Porn Addiction. Extrait de TheFreedomFight.org. Lisez 1 Corinthiens 7, 1 à 5 et Hébreux 13, 4. Les versets de 1 Corinthiens nous enseignent que l'un des objectifs du mariage est de satisfaire les désirs sexuels. Le mari et la femme se donnent l'un à l'autre et renoncent à revendiquer la propriété de leur propre corps. Ainsi, une personne mariée ne doit pas s'attendre à entretenir des relations sexuelles uniquement lorsqu'elle le souhaite, mais elle doit également combler les désirs de son conjoint. Les versets à l'étude ne nous disent pas qu'une personne peut exiger d'être satisfaite contre la volonté de son conjoint. Au contraire, il est question d'être sensible aux besoins de l'autre. Ce passage biblique nous enseigne que les personnes mariées ne doivent pas se priver mutuellement de ce privilège. Une courte période d'abstinence sexuelle accompagnée d'un jeûne est légitime, mais une séparation prolongée provoquera la tentation à cause de désirs insatisfaits. Parfois, les couples choisissent de se séparer pendant plusieurs mois ou plus longtemps parce que l'un d'eux part travailler ou étudier dans un endroit éloigné. Avant de prendre une telle décision, les personnes mariées devraient vraiment se demander si un tel plan correspond à la volonté de Dieu. Les couples peuvent rencontrer des problèmes à cause de la longue séparation. Certaines personnes préfèrent vivre sans enfanter, mais la Bible enseigne que Dieu veut que les parents aient des enfants pieux. Malachie 2, 15. Il est important de noter que Dieu ne met pas juste l'accent sur la reproduction, mais sur le fait d'accoucher des enfants pieux. Dieu invite donc les parents à enseigner à leurs enfants à suivre Christ. Le mariage chrétien vise à glorifier Christ. Lisez 1 Pierre 3, 1 à 7 et Éphésiens 5, 22 à 33. Le groupe doit garder ces passages bibliques ouverts au cours de la discussion. En Éphésiens 5, 30 à 32, le Saint-Esprit révèle la signification profonde du mariage cachée jusqu'à la venue de Jésus. Le mariage est une image terrestre, un reflet de la relation entre Jésus-Christ et son Église. Paul commence cette section en exhortant les chrétiens à être remplis de l'Esprit, Éphésiens 5, 18. Ainsi, donne-t-il les instructions suivantes sur le mariage. Une femme remplie de l'Esprit se soumet à son mari, son chef, dans le Seigneur, de la même manière que les chrétiens se soumettent à Jésus, Éphésiens 5, 24, 32. Voir aussi 1 Pierre 3, 1. La femme montre ainsi son respect à Jésus et à son mari. La femme est censée accepter le leadership de son mari, même si celui-ci n'est pas enfant de Dieu. Si elle le fait, son mari non sauvé a plus de chances de devenir enfant de Dieu. Il est important pour les femmes de penser au Seigneur dans leur soumission. Elles se soumettent à lui et pour lui, pas uniquement pour leur mari. Elles ont les yeux fixés sur Jésus, le seul à être irréprochable. La soumission volontaire d'une femme à son mari est un acte d'adoration envers Jésus. La soumission biblique, de même que l'amour, ne saurait être forcée. La soumission biblique est un don que les femmes offrent à leur mari par respect pour Christ. Éphésiens 5, 33. La soumission en tout est un acte d'adoration envers Jésus. Pour une étude plus approfondie de la soumission chrétienne, voir la leçon 10 de la formation spirituelle, disponible auprès de Shepherd's Global Classroom. La soumission d'une femme à son mari est un acte de respect, Éphésiens 5, 33, à son égard, une preuve de la vie remplie de l'esprit, Éphésiens 5, 18 à 21. Cet honneur découlant d'un esprit doux et paisible est d'un grand prix aux yeux de Dieu, 1 Pierre 3, 4. Un mari rempli de l'Esprit aimera sa femme comme Jésus aime son Église, Éphésiens 5, 25. Le mari doit l'aimer comme il aime son propre corps, Éphésiens 5, 28 à 29. Il doit manifester le même sacrifice rempli de l'Esprit que celui que Jésus a manifesté à l'égard de son Église lorsqu'il s'est livré pour elle. C'est là son acte de soumission à Dieu, Éphésiens 5, 21. Un commentateur l'a exprimé ainsi. De même que Jésus s'est sacrifié pour souffrir sur la croix afin de sauver l'Église, nous devons aussi être prêts à renoncer à nous-mêmes et à endurer le dur labeur et les difficultés en vue du bonheur de notre femme. Le mari se doit de travailler avec diligence pour la soutenir, de subvenir à ses besoins, de se priver de repos et d'aisance, si nécessaire, afin de veiller sur elle en cas de maladie, de la précéder en cas de danger, de la défendre lorsqu'elle fait face à un danger, de la supporter lorsqu'elle est irritable, de s'attacher à elle lorsqu'elle le repousse, de prier avec elle lorsqu'elle est en difficulté spirituelle et d'être prêt à mourir pour la sauver. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi? En cas de naufrage, et s'il y a une seule planche sur laquelle elle peut se réfugier, ne serait-il pas prêt à la placer sur cette planche et à la mettre à l'abri à tout prix? Cependant, il y a plus. Un mari doit savoir que le seul grand objectif de sa vie et de rechercher le salut de sa femme. il doit lui fournir tout le nécessaire pour le bien-être de son âme. Il doit en plus prêcher l'exemple, la conseiller au besoin, et lui rendre la voie du salut aussi facile que possible. Si un mari a l'esprit et brille par le renoncement à soi comme le sauveur, aucun sacrifice ne sera trop grand s'il peut aboutir au salut de sa famille. Albert Barnes, Barnes Notes on the Whole Bible. Note sur Éphésiens 5, 25. Le mari doit rechercher la pureté de sa femme, tout comme Christ a purifié son épouse, l'Église, Éphésiens 5, 26 à 27. 1 Pierre 3, 7 dit que le mari doit vivre avec sa femme en faisant preuve de discernement. Par conséquent, il doit faire de son mieux pour la comprendre. Il doit l'étudier pour savoir ses besoins. Dans ce verset, il est écrit au sujet de la femme et en tenant compte de la nature plus délicate de la femme. Une femme a besoin de la considération de son mari. Il doit la protéger, non seulement des attaques physiques, mais aussi des soucis et du stress émotionnel. Le mari doit assurer, par tous les moyens possibles, l'épanouissement de sa femme. Fidélité, amour inconditionnel, compréhension, prière, conseil, enseignement et bonté. Lorsque le mari traite sa femme avec un tel amour, il est récompensé par le bonheur. Paul déclare « Ainsi celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Éphésiens 5, 28. Les maris qui aiment leur femme de cette façon seront plus que récompensés par le Seigneur, et très probablement par le respect, l'affection et la fidélité de leur femme. Il est important de se rappeler comment les commandements de ces versets sont donnés. La Bible ne dit pas au mari d'imposer son autorité à sa femme. La femme doit obéir à son mari, mais le mari ne doit pas l'obliger à obéir. Il lui est demandé d'aimer sa femme et de consentir les sacrifices nécessaires pour prendre soin d'elle. De même, la Bible ne dit pas à la femme d'obliger son mari à prendre soin d'elle. Il lui est demandé de respecter son mari. La priorité du mari ne doit pas être d'asseoir son autorité, mais de prodiguer des soins affectueux. La priorité de la femme ne doit pas être d'exiger des soins pour elle-même, mais de respecter son mari. L'apôtre Pierre avertit le mari que ses prières seront entravées s'il ne prend pas bien soin de sa femme. Les paroles de Paul et de Pierre nous enseigne qu'un homme qui ne prend pas soin de sa femme comme il se doit, n'aime pas Dieu comme il se doit. Une femme qui ne respecte pas son mari ne respecte pas Dieu comme il se doit. Notre comportement dans le mariage influence notre relation avec Dieu. Le caractère irrévocable du mariage. Dans le plan de Dieu, le mariage possède un caractère irrévocable. À travers cette union, un homme et une femme s'engagent à être fidèles l'un à l'autre jusqu'à la fin de leur vie. La Bible relate des paroles de Jésus sur le mariage, prononcées lors d'une conversation avec des pharisiens. Lisez Matthieu 19, 3 à 8. Jésus déclare que le plan de Dieu octroie un caractère irrévocable au mariage. Selon Jésus, le divorce a été instauré pour les personnes qui ne vivent pas selon les préceptes de Dieu. Plusieurs raisons expliquent le choix de Dieu de rendre le mariage irrévocable. Nous avons évoqué certaines d'entre elles dans la dernière partie. Le bien-être des enfants constitue une autre raison qui justifie le caractère irrévocable du mariage. L'obéissance au plan de Dieu pour le mariage crée un environnement idéal pour élever des enfants. Lorsque les parents honorent Dieu et obéissent à ses principes dans leur mariage et leur famille, ils sont en mesure d'élever des enfants pieux. Malachie 2, 15. Conformément au plan de Dieu, l'être humain a besoin de plusieurs années pour atteindre l'âge adulte. Durant cette période, les enfants dépendent de leurs parents pour leur protection, leur approvisionnement et leur éducation. Cette situation diffère de celle des animaux qui atteignent la maturité en une ou deux années. Les êtres humains ont besoin de plus de temps pour atteindre la maturité. La famille est un cadre idéal conçu par Dieu pour l'éducation des enfants. L'absence de bons parents au sein des familles constitue la principale cause des problèmes qui minent la société. Le mariage implique un engagement des conjoints à consacrer leur vie l'un à l'autre. Chaque culture possède des symboles et une cérémonie attestant du fait que le mariage est un engagement sérieux. La cérémonie en question permet à l'homme et à la femme de déclarer publiquement qu'ils s'engagent pour la vie. La plupart des gouvernements consignent les mariages dans des registres. Les lois sur le mariage ont une incidence sur la propriété des biens la garde des enfants et l'héritage. Voici un exemple de vœux formulés à l'occasion de plusieurs mariages. Je te prends comme époux, épouse. À partir de ce jour, je promets de te protéger et de te choyer, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare, selon la sainte ordonnance de Dieu. Et ainsi, je me lie à toi. Les sentiments romantiques ne sont pas toujours constants. Un mariage ne peut pas reposer sur des sentiments subjectifs susceptibles de changer. Les vœux de mariage constituent une promesse de fidélité entre un homme et une femme durant toute leur vie, sans contrepartie. En raison du caractère irrévocable du mariage, les chrétiens doivent s'abstenir de toute déclaration, laissant entendre qu'ils sont prêts à mettre un terme à leur union à cause d'un problème de couple. Des déclarations telles que « Je regrette de t'avoir épousé » ou « Nous devrions peut-être divorcer » sont à proscrire. Ces déclarations relèvent parfois d'une tentative de manipulation visant à montrer à son conjoint que l'on se préoccupe de son couple. La personne qui prononce ces paroles acerbes espère que son conjoint redoublera d'efforts pour lui plaire, mais cette réaction est rare. Au contraire, l'autre personne va se défendre à travers des déclarations telles que « D'accord, divorçons si tu le souhaites ». Les deux parties auront alors sous-entendu qu'elles sont prêtes à mettre fin au mariage à cause de leurs besoins égoïstes et la qualité de la relation se dégradera davantage. Sujet de réflexion. Pourquoi un mariage débute-t-il par des vœux et non par une simple déclaration d'amour? Le mariage en tant que partenariat chrétien. Lisez 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ces versets nous enseignent que le dévouement d'un chrétien est limité s'il a des liens trop étroits avec des pécheurs. Un chrétien ne peut pas communier avec un adorateur de Satan, et il ne peut pas non plus épouser le mode de vie et les priorités des pécheurs. Cette logique peut être appliquée à différents contextes relationnels, notamment dans les partenariats d'affaires. Pour les êtres humains, le mariage constitue la relation la plus intime. Un chrétien ne doit même pas envisager d'épouser une personne sans conviction chrétienne profonde. 1 Corinthiens 7, 39. Un chrétien marié à un païen vivra une expérience douloureuse et rencontrera de nombreux obstacles dans l'éducation des enfants et la prise de décisions capitales pour sa vie. Si le mari et la femme sont tous deux chrétiens, mais appartiennent à des dénominations différentes, ils doivent s'assurer d'être en accord sur les questions spirituelles importantes. Ils doivent projeter d'appartenir à la même église locale après leur mariage. Comment les couples peuvent-ils consolider leur mariage? 1. Ils doivent embrasser le dessein originel de Dieu et accepter leur rôle respectif au sein du foyer. Le mari doit savoir que sa femme est un don de Dieu, une aide qui le complète. Il doit consacrer sa vie à sa sécurité et à son bien-être spirituel, émotionnel et physique. Il doit décider de lui témoigner de la gratitude et de l'aimer même lorsqu'elle ne le mérite pas, sachant que Dieu seul peut changer son comportement. Dieu honorera son obéissance et sa foi. Une femme doit respecter le choix de Dieu de désigner son mari comme son chef, lui témoigner du respect dans toutes les circonstances et honorer son autorité. Elle doit se soumettre et le respecter, même lorsqu'il commet des erreurs et qu'il ne le mérite pas, priant pour que Dieu opère les changements nécessaires en lui. Dieu honorera son obéissance et sa foi. 2. Les couples mariés doivent développer une véritable intimité spirituelle et physique. Ils doivent chercher à mieux se connaître, sans peur, sans critique, sans comparaison avec les autres, sans abus, sans désir égoïste, sans humiliation. Ils doivent vivre avec transparence et avec intégrité devant Dieu et devant leur conjoint. 3. Les couples mariés doivent s'appuyer sur la grâce de Dieu lorsqu'ils sont incapables de répondre à leurs attentes mutuelles. Lorsqu'Adam et Ève ont péché et ont éprouvé de la honte et du regret, Dieu a manifesté sa puissance pour les racheter. Il a sacrifié un animal pour confectionner des vêtements pour Adam et Ève, afin de couvrir leur nudité. Genèse 3, 21. Cet acte divin, empreint d'amour, symbolise la grâce et la promesse de rédemption de Dieu par l'intermédiaire de Christ. Christ nous accorde le pardon et la restauration. Grâce à lui, un couple marié peut retrouver son intimité sans honte, même après une séparation. Conclusion. Le mariage est une institution divine et non humaine. Par conséquent, nous devons nous adresser à Dieu pour obtenir des instructions et non au monde ou à la culture. Dieu seul sait comment rendre nos mariages solides, durables et bénéfiques. Par ailleurs, nous ne pourrons jamais devenir les époux que nous souhaitons être sans le Saint-Esprit. Prière. Père Céleste, merci de nous avoir offert ce don merveilleux qu'est le mariage. Merci pour sa conception exceptionnelle. Aide-nous à prendre l'engagement nécessaire pour avoir un mariage conforme à tes desseins. Aide-nous à exprimer un amour semblable à celui de Christ envers l'Église. Aide-nous à dépasser les préjugés de notre culture dans notre respect mutuel. Merci pour la présence de l'Esprit-Saint qui rend les relations joyeuses et solides. Amen. Le respect des femmes. Avant de passer à la leçon 4, la classe doit étudier l'annexe A et en discuter. Il s'agit d'une brève discussion sur le respect des femmes, un sujet important lié au mariage et à la famille.